Bonjour et bienvenue ce matin. Si vous nous rejoignez sur les ondes de RTCI, vous écoutez la voix de Kerim Ben Saïd qui vous accompagne jusqu'à midi dans le cadre de votre émission politique. On refait le débat. Ce matin, je suis heureux d'accueillir le professeur Hedi Mechri qui est également donc le directeur de l'économiste maghrébin. Vous l'avez deviné, ce matin, nous allons parler d'économie, mais également de politique puisque les deux sont liés. La Tunisie est-elle au bord de la faillite alors que les partis politiques n'ont d'autre occupation que de chercher un nom pour le prochain chef du gouvernement? C'est la question centrale qu'on se pose ce matin avec notamment tout à l'heure l'intervention de M. Omar El-Behi, membre du bureau exécutif de l'UTAP qui participe actuellement aux concertations à propos de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Comme vous le savez, une proposition du chef de l'État. Bonjour Sihedi.
Bonjour Sikali.
Comment allez-vous?
Fort bien, merci.
Allez, on
est... bonjour pour vos auditeurs.
Allez, on écoute Lotfi Bouchner, SCSI, Wilkeresi, donc, et on revient pour parler justement du politique et des chaises.
ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام واختلط في ذهني وفكري الكلام يا أبي خبرني يا أبي خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة والسياسة انت ظل لو زال شعبك تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك المهم تظل وتظل الكراسي والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي وما يهمه في المظالم والمآسي والسياسة وهام في فكر السياسي يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة يا أهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة قالت إن الظلم غادر إن صوت الشعب هادر وإن رب الكون قادر يمحق أصحاب الكراسي والكراسي وكل سياسي إن كان يفهم. خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير، كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير، بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاقم والمحبة والعمل، وما يهمك في الكراسي يظل شعبك والوطن، ويظل تاريخك زمن وتزول وتزول الكراسي.
11h14 minutes sur les ondes de RTCI. Hedi Mechili, on le rappelle, donc directeur de l'économiste maghrébin. Hedi Mechili, je vais commencer par un constat quelque peu pessimiste. Nous avons l'impression que la situation générale actuelle est morose, que ce soit en économie, en politique, ou peut-être même en culture, au niveau culturel. C'est comme si on était dans un mythe de Sisyphe version moderne. Tout se déconstruit, on essaye de reconstruire et finalement tout s'effondre. C'est vraiment la même chose. On a l'impression que les citoyens et même la société civile ont finalement rendu les armes.
Rendu les armes, non. La voix, effectivement, elle est assez active. On parlait de cette société civile.
Oui.
Bon, le fait est que...
Un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'au début de cet élan révolutionnaire,
oui,
disons.
Et faut quand même pas oublier, effectivement, qu'il y a l'usure un peu de temps.
Oui.
Et que, bien évidemment, l'été frappe un peu à nos portes. Et d'ailleurs, on en profite pour, je pense, qui m'est offerte, effectivement, pour féliciter les heureux élus.
Effectivement.
Et leur dire que nous comptons réellement sur eux, pour prendre un peu la relève.
Pour eux, justement, l'avenir reste incertain, pour faire une transition avec ce que vous allez dire.
Incertain, non. Je pense que le pays, effectivement, a un peu la maîtrise. Aujourd'hui encore, nous avons la maîtrise, effectivement, de notre destinée. Nous avons notre destin en main. L'avenir est ce que nous voudrions qu'il soit. Je peux vous dire qu'effectivement, d'ailleurs c'est bien simple, regardez ce qui se passe ces derniers temps. C'est vrai que la situation est difficile, elle est grave par certains aspects. C'est ce qui a fait effectivement que, je pense que le chef de l'État, le président de la République, est dans son rôle. Lorsqu'il a pris précisément cette initiative, s'il l'a fait, c'est parce qu'il a estimé effectivement que la situation est grave et qu'il fallait absolument prendre une initiative de cette nature-là pour faire bouger les lignes, pour évidemment faire avancer un peu les choses, parce qu'on ne peut plus rester en l'état.
On le voit, mais sur le fond, rien ne change, puisqu'on est en train de chercher un nom, tout simplement, et non pas un programme.
Écoutez, chercher un nom, ça me paraît effectivement dans l'ordre des choses, encore que ce pays ne voudrait plus effectivement cet temps providentiel. On aurait aimé souhaiter effectivement, c'est vrai qu'il est, je dirais effectivement, union autour d'un programme, d'un projet effectivement. Cela dit, il faut bien effectivement qu'il ait un chef pour conduire, si j'ose dire, effectivement son gouvernement à la bataille. Et en fait, c'est un vrai combat que nous allons devoir livrer. Bon, le fait est que, politique, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, voilà, il faut qu'on en parle parce que les problèmes sont d'ordre économique, sont d'essence économique et ces problèmes sont graves. Nous y reviendrons tout à l'heure. Parce que là, voilà, c'est quasiment l'impasse. Quand un pays finalement est rumeur ou pas rumeur, le fait est que quand ce genre de bruit circule, si l'État est en capacité de verser les émoluments de ses fonctionnaires, évidemment c'est que quelque part, c'est assez grave quand on arrive à se poser ce genre de questions.
On parle également de faillite des caisses sociales, c'est un environnement qui pèse aussi sur le citoyen. Le citoyen ne se sent plus en sécurité.
Le fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'endettement du pays soit à un niveau tel que pose le problème de la soutenabilité de la dette, est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir rembourser ou non, ça me paraît tout à fait grave. Et je pense que c'est pour cette raison, pour ces raisons-là, que le chef d'État a cru bon de prendre ce type d'initiative, effectivement, de former un gouvernement d'union nationale. Je dirais, au fond, union nationale, c'est un simple euphémisme. Je pense que c'est plutôt un gouvernement de salut nationale au regard de la gravité de la situation. Et le président de l'État, le président de la République, le chef d'État n'a pas manqué de le souligner. Il a brossé un tableau un peu plus sombre de la situation économique du pays. Mais, sauf que les problèmes sont d'ordre économique, mais la situation, la solution, elle est d'essence politique. Elle est d'essence politique. Et il est normal, effectivement, qu'on s'interroge. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez ? Derrière chaque réussite, il y a une stratégie. Derrière chaque stratégie, il y a un stratège, c'est-à-dire il y a un homme. Donc il faut absolument qu'il y ait un chef de gouvernement, que ce chef de gouvernement l'appui de concert, effectivement, avec les autres formations politiques, arrive à désigner un gouvernement qui soit relativement homogène, suffisamment cohérent, pour pouvoir engager, effectivement, et des réformes.
Mais sommes-nous vraiment en train de chercher un homme politique qui puisse conduire la Tunisie ou bien qui puisse conduire un parti politique? C'est différent. Est-ce qu'on est en train de chercher un sauveur pour la Tunisie ou un sauveur pour un parti, un ou plusieurs partis? C'est la question centrale.
Écoutez, je ne sais pas si nous sommes effectivement en capacité de chercher un sauveur. Le terme paraît un peu fort, effectivement, parce que décision ne peut être que collégiale, que collective, et on le voit. Et je crois que finalement, c'est un peu l'effort concerté de tous. Ben, il y va de cet effort concerté, de la volonté. Si tout le monde ne s'y met pas, je veux dire les politiques, l'ensemble de la société civile, les corps constitués, je veux dire effectivement les convenus d'appeler partenaires sociaux, UGTT, UTICA, UNA.
Les organisations nationales.
Les organisations nationales. Et ben, si, évidemment, ils prennent pas conscience de la gravité de la situation, et s'ils se disent pas, ce coup-ci, il faut y aller, sans calcul politique, il faut sauver ce pays-là, on n'y arrivera jamais, quel qu'en soit.
Est-ce que vous pensez qu'une participation, par exemple, ben, la participation est écartée, on le sait, mais est-ce que la participation de l'UGTT et l'UTICA à un gouvernement d'union nationale pourrait participer au sauvetage du pays?
Participation de l'UGTT et de l'UTICA, j'estime...
Ils ont dit non.
De toute manière, ils ont dit non, et puis finalement, qu'ils y participent, ça ne paraît pas sain.
Ça serait un gouvernement contre nature.
Ça ne me paraît pas sain du tout. Chacun doit dans son rôle. L'UGTT a un rôle à assumer, et bon, elle assume tant bien que mal. L'UTICA, effectivement, évidemment, je dirais plutôt que des intérêts, effectivement, à défendre. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est un peu orpheline de projet, hein, de société. Il va falloir, effectivement, qu'elle se donne un projet, hein, et qu'elle mette au profit de ce projet-là. Que ces organismes ou organisations viennent en appui à l'État me paraît tout à fait à la fois concevable, nécessaire et utile. Mais qu'ils y participent, de toute manière, ils ne pourront pas le faire. Vous savez, quoi qu'on dira, ben, ils sont sur des logiques tout à fait différentes. Je ne crois pas effectivement qu'aujourd'hui l'UGTT et l'UTICA aient les mêmes intérêts. Hein, je ne le pense pas. Et puis de toute manière, bon, que l'UGTT participe ou non, bon, il y a quand même quelques antécédents. Et j'aimerais effectivement que cela ne se reproduise pas. Parce que, rappelez-vous, il y a eu le quartet. Et le quartet, effectivement, était dominé un peu par ce condominium, si j'ose dire, UGTT UTICA. Et c'est ce quartet-là qui a nommé à l'époque Mehdi Jomah. C'est lui qui a l'origine de la nomination.
Dont le bilan n'a pas été...
Ce qui n'a pas empêché l'UTICA, effectivement, de le harceler en permanence, hein, et d'être constamment en conflit avec Mehdi Jomah. Je dis, ils sont sur une logique qui enfin, de leur, enfin, en particulier l'UGTT. Mais il faudrait que, bien évidemment, l'UGTT prenne, comme tous les partis politiques, ben, qu'il figure, hein, au sein du gouvernement ou qu'il le soutienne d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que tout ce monde-là prenne conscience que la situation est grave et que si rien n'est fait, je pense qu'effectivement tout pourrait être possible et je n'exclus pas effectivement une sorte d'implosion sociale. Et là, effectivement, elle importera tout le monde.
Effectivement.
Personne n'y survivra.
Effectivement. Alors, le Habib Sid, donc, semble-t-il, va présenter sa démission. Il ne va pas aller jusqu'au bout de son bras de fer avec le président de la République. Aujourd'hui, il va présenter, pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les jours qui viennent, il va présenter sa démission dès la fin des concertations sur le gouvernement d'Union nationale. Selon vous, quelles ont été les erreurs de Habib Sid?
De toute manière, pour revenir effectivement à la démarche Habib Sid, je crois que s'il se retire, cela me paraît assez sage. Et venant effectivement à Habib Sid, ça ne me surprend pas. Donc, il fallait absolument qu'il parte dès lors que son autorité morale a été plus ou moins entachée et entamée. Donc, on ne peut plus, hein, manifestement, poursuivre et avoir la même, si j'ose dire, autorité.
Mais d'après son entourage, il a été touché. Il a été touché en son être par ce manque de reconnaissance, voilà, de ses services. Sortir de cette manière, pour lui, c'était quelque chose d'inimaginable.
Karim, hélas... Écoutez, c'est un peu dans notre ADN, c'est un peu dans notre chaîne. Si, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu dans notre histoire. Si, s'il faut définir ce pays d'un seul mot, on dira que c'est l'ingratitude faite pays. Et ce pays n'a jamais été reconnaissant aux gens qui l'ont servi. Si reconnaissance il y a, elle a été toujours à titre posthume. Non. Et puis finalement, Habib Sy découvre à son insu l'ingratitude, effectivement, et je dirais, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut lui reconnaître, Habib Sy? On le critique souvent. Qu'est-ce qu'il a fait de bien au sein du gouvernement?
D'abord, finalement, d'avoir accepté de présider un gouvernement à un moment où, évidemment, tout paraissait quasiment intenable ou presque. Il faut dire que l'héritage n'était pas très bon. Il a hérité d'une situation qui est très difficile, qui est très complexe, hein, et d'une, et puis deux.
Donc vous êtes d'accord avec ce que dit le président de la République, qui dit, voilà, avec ce qui se passe autour, la situation générale, je pense que le bilan a été positif. Il dit que le bilan, compte tenu de ce qu'il y a, le bilan du gouvernement a été positif, finalement.
Je ne dirais pas cela. Hein. Positif me paraît quand même un peu fort. Oui. Bon. Qu'il y a eu quelques avancées, c'est un fait. Mais évidemment, bilan même pas globalement possible, parce qu'autrement on ne serait pas dans la situation où nous en sommes aujourd'hui. Parce que là, il ne faut pas effectivement se cacher. Il y a un certain nombre de réalités. Aujourd'hui, on voit effectivement, la reprise n'est pas au rendez-vous. Ça ne vous échappe pas. On disait, il y a un an et demi, qu'elle est au coin de la rue, et qu'effectivement, il va rebond de l'économie tunisienne. Il n'y a pas eu de reprise. Il n'y a pas eu de reprise, ni de l'investissement, ni reprise d'exportation, ni reprise effectivement de l'activité touristique, ni reprise de la production. En revanche, les déficits se sont accrus, se sont creusés, déficits jumeaux, balance commerciale, déficits budgétaires, et bien évidemment, avec pour corollaire une explosion de la dette, et surtout le contenu en devise de la dette. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a réussi, alors que sa marge de manœuvre est beaucoup plus étroite qu'elle ne l'était quand il a pris effectivement...
Quelle a été sa principale erreur, Habib Sy?
D'abord, principale erreur, je ne sais pas, je me garderai volontiers de le juger, mais je dirais qu'il a manqué d'appui. Je pense qu'effectivement, dès le départ, ce gouvernement était un peu atypique. Parce qu'on est dans un régime, alors, ni parlementaire, pur et dur, ni un régime présidentiel. En fait, il y avait un exécutif à plusieurs têtes, hein, donc présidence de la République, présidence ou l'Assemblée représentante du peuple, chef de gouvernement, et les rôles, effectivement, n'étaient pas tout à fait clarifiés.
Et le rôle de Rachel Ghannouchi, par exemple, est très écouté par le président de la République.
Oui, mais je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais le fait est qu'effectivement, il y a aujourd'hui besoin de clarification. Parce que finalement, ce ni me paraît être effectivement à l'origine de ce blocage et de cette paralysie. Donc il faut absolument que l'exécutif soit incarné par un chef de l'exécutif. Et alors finalement, je me dis, dès le départ, Habib Sy était plus ou moins contesté, il faut un peu le dire. Et puis finalement, il n'a pas eu l'appui nécessaire, même des quatre formations politiques qui faisaient partie du gouvernement. Il était soutenu par ses partis, qui faisaient partie de son gouvernement, comme la corde qui soutient le pendu. Au fond, personne ou presque voulait qu'elle réussisse, parce que cela pouvait avoir effectivement des conséquences plus ou moins sur leur carrière politique, etc., etc. Donc je me dis, c'est surtout cela. Donc. Et puis, là où, d'ailleurs, le président de la République, je ne crois pas que finalement il ait pris cette décision sans
y réfléchir.
Tout à fait.
Certains disent que c'était sur un coup de tête.
Non, je vais vous le dire, parce que, regardez, il y a quelques mois, président de la République, je crois qu'effectivement dans émission, une intervention télévisée, osait dire que finalement, on laissait entendre que ce gouvernement-là est un gouvernement de gestion d'affaires courantes. Il a lâché le terme.
De fait, oui.
C'est un gouvernement de gestion, ça a surpris plus d'un. Je sais aussi que, rappelez l'occasion du discours 60e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État déplorait effectivement un manque de déficit d'État. L'expression est de lui. A été dans un élan d'accès de colère, il y a un déficit d'État, donc un manque de, bien évidemment, d'autorité. Et je pense qu'il n'a pas été entendu. Vous savez, ce genre de message va à l'avertissement. Et quand c'est le président de la République, enfin, Béjir Kaïtsepsi en l'occurrence, le politique qu'il est, qu'il dit, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je crois qu'effectivement, son message n'a pas été entendu. Donc, cette décision-là me paraît faire suite un peu, effectivement, à...
À des mises en garde.
Qui sont montées crescendo.
Allez, on écoute Mejd Arroumi dans Hobak, et puis on revient pour parler du gouvernement d'Union nationale. 11h35 sur les ondes de RTCI, nous parlons toujours du gouvernement d'Union nationale, du projet de gouvernement d'Union nationale. Nous avons au bout du fil M. Omar Bey, membre du bureau exécutif de l'UTAP. Bonjour.
Bonjour Kérim.
Alors, vous êtes donc, vous participez aux concertations à propos de la formation d'un gouvernement d'Union nationale. Aujourd'hui, nous avons l'impression, et l'impression générale, c'est que nous sommes en train de chercher un nom, le nom du prochain chef du gouvernement, et non pas de, nous ne sommes pas dans une phase de chercher un programme de gouvernement.
Moi, je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faudrait plutôt chercher un programme et non pas chercher un nom. De toute façon, pendant les concertations, les noms n'ont pas du tout été proposés. On n'a pas du tout, on n'est pas dans une logique de recherche du nom actuellement au niveau des concertations. Donc on est dans une logique de recherche d'un programme pour le nouveau gouvernement, d'autant plus que ce qui a été donc déclaré, ce qui a été publié suite à la dernière réunion de mercredi, c'est un programme d'un nouveau gouvernement avec une nouvelle segmentation des ministères moins... moins de ministères, moins de ministres, etc. Donc c'est d'une logique de rechercher, pour l'instant, au niveau des concertations, les noms n'ont pas été proposés, il n'y a pas une discussion au niveau des noms.
Peut-être pas avec l'UTAP et l'UGTT, mais par exemple, quand on voit que Nidé Tounes veut un gouvernement, un chef du gouvernement issu de Nidé Tounes, de son parti, on voit bien que c'est une question de nom, finalement.
D'accord, ça c'est la position de l'idée. Tout ne serait pas la position donc de l'ensemble des parties donc prenantes au niveau de cette discussion. Donc tout ne s'est déclaré sa position, on la respecte. Après on verra, c'est un consensus à trouver au niveau donc je pense de tout le groupe. Mais globalement, la démarche générale, c'est de rechercher donc un programme pour ce nouveau gouvernement. J'espère qu'on va rester dans cette logique là. Parce que vraiment, chercher le nom, ce n'est pas du tout ce qui est, je pense, obligatoire et ce qui est donc nécessaire pour la Tunisie actuellement. Je pense qu'il faut rechercher un nouveau programme, donc une nouvelle organisation au niveau des ministères, au niveau des ministres, une diminution du nombre de ministres, c'est ça. Que va faire le nouveau gouvernement exactement?
Justement, je vous pose la question, que devra faire le prochain gouvernement?
Actuellement, on va parler au nom de l'UTA parce que au niveau donc de l'équipe actuellement qui est en train de négocier, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais à mon sens, moi, je pense que le nouveau gouvernement devrait s'atteler à mettre en œuvre des réformes structurelles profondes. Je pense qu'il y a des réformes structurelles profondes à mettre en œuvre par ce nouveau gouvernement.
Douloureuses parfois pour les citoyens.
Douloureuses, certainement. Douloureuses parce que la situation économique actuelle, elle est intenable avec la dépréciation du dinar. Je pense le coût des importations va devenir de plus en plus important. D'autant plus si on parle du domaine agricole, en Tunisie, on est des importateurs nets de céréales. Et bien sûr, avec cette dépréciation du dinar, le coût des importations de céréales va augmenter considérablement. D'autant plus que l'année actuelle est une année moyenne, très moyenne en termes de récolte céréalière. On compte collecter maximum entre 7 et 8 millions de quintaux en blé dur, blé tendre et orge. Donc, alors que nos besoins sont pratiquement plus que du double. Donc, en termes d'importation, on va importer des quantités importantes en termes de blé tendre, de blé dur. Donc,
et avec un dinar en chute libre.
Un dinar en chute libre, donc ça va vraiment renchérir le coût des importations. Là, il faudrait tenir compte de ça. Je pense qu'il faudrait que tout le monde, je pense, se mette au travail. Cette histoire des mines, des phosphates, il faudrait aussi trouver une solution rapide. Mais je pense qu'il faudrait faire un gouvernement de telle façon à envisager les réformes nécessaires. Il faudrait que, au niveau de l'investissement, il faudrait booster l'investissement. Pour cela, au niveau du plan de l'investissement, au niveau de la nouvelle... Le nouveau code d'investissement, il faudrait qu'il voit le jour très rapidement pour ainsi donner un souffle et donner une nouvelle lecture, donner de nouveaux horizons pour les investisseurs pour booster cet investissement-là.
Est-ce que
c'est 1%, il est impossible de continuer comme ça.
Est-ce que le gouvernement Habib Sid a été lent pour faire ces réformes? Est-ce que c'est ça, son principal défaut?
C'est Moi, je pense
la lenteur des réformes.
Certainement, mais je pense que pour faire ces réformes, il faut un consensus. Et dans le cas de ce gouvernement d'Union nationale, j'espère que ce consensus-là sera en place. Et si on a ce consensus avec les grandes organisations nationales, avec les grands partis qui gouvernent ce pays, j'espère qu'on pourra aller dans ce type de réforme.
Donc vous êtes d'accord avec notre invité, Hedi Mech, il est donc directeur de l'Économiste maghrébin, qui avait dit que le principal défaut peut-être ou lacune du gouvernement Habib Sid, c'est qu'il n'a pas été assez soutenu.
Certainement. Il n'y avait pas un consensus général, même de la part des partis qui soutiennent Habib Sid. C'est-à-dire, on a bien vu qu'il n'y a pas eu ce consensus avec le gouvernement de Habib Sid. Et c'est pour ça que le gouvernement de Habib Sid a eu du mal à mettre en œuvre des réformes que, comme vous dites, qui doivent être et qui vont être douloureuses, certainement, pour l'ensemble des citoyens. Donc, il faudrait quand même que ce gouvernement et un large consensus et un large soutien de la part donc des partis politiques dominants au niveau donc de l'Assemblée nationale et surtout au niveau aussi des organisations nationales, l'UGTT, l'UTICA, l'UTAP et ainsi donc je pense qu'il pourra donc engager ces réformes structurelles importantes et dans ce cas essayer de relancer l'économie. Moi je pense à une réforme de l'impôt, donc une réforme de l'impôt elle est indispensable.
La réforme fiscale.
Au niveau de l'État, certainement une réforme fiscale parce qu'il faudrait je pense améliorer donc le taux de recouvrement au niveau de l'État, donc il faudrait que l'État arrive à récolter plus d'argent donc parce que pour pouvoir emprunter moins de l'étranger.
Mais la situation économique est intenable actuellement. Est-ce que le prochain gouvernement aura tout de même une marge de manœuvre?
Certainement, il faudrait qu'il y ait cette marge de manœuvre pour engager les réformes. Il faudrait, moi je pense, améliorer le taux de croissance. Actuellement, le taux de croissance il est extrêmement faible, 1%. Moi, je pense avec ce taux de croissance-là, et surtout avec ce taux d'intérêt aussi élevé, dernièrement, le représentant, je pense, de la Banque africaine de développement a fait un constat qu'en Tunisie, on a des taux, des TMM qui sont trois fois supérieurs au taux de croissance, et qu'il est impossible de développer un pays avec un TMM, avec des taux de TMM supérieurs de trois fois.
Pour expliquer à nos auditeurs, ça veut dire que les investisseurs ne vont pas investir quand le TMM est important, c'est cela ?
Bien sûr, si on a un TMM, c'est-à-dire si on va emprunter de l'argent, alors que le taux de croissance général de la Tunisie il est de 1,5% et que le TMM il est de 5%, c'est impossible de pouvoir rembourser les prêts et de pouvoir gagner de l'argent avec ces taux de croissance actuels. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faudrait, je pense, booster l'investissement. Il faudrait essayer de relancer l'investissement. Il faudrait avoir un climat de confiance. Il faudrait aussi, au niveau de la culture, il faudrait aussi mettre en place un plan pour booster donc le secteur agricole. On l'a bien vu en 2014, c'est l'agriculture qui a sauvé pratiquement l'économie tunisienne avec les exportations d'huile d'olive record de l'ordre de pratiquement de 2 milliards de dinars. Donc, je pense au niveau de l'agriculture, il y a des possibilités de générer plus d'argent. C'est un secteur qui est plus stable, plus sûr par rapport à d'autres secteurs. Quand on voit la crise actuellement que traverse le secteur du tourisme, on se pose vraiment des questions sur les choix donc antérieurs qui ont été faits de miser beaucoup sur le tourisme, alors que c'est un secteur, malheureusement, actuellement qui vit une crise sans précédent. Et j'espère que ça va être donc qu'on va améliorer la situation dans le futur, mais réellement miser uniquement sur le tourisme, je pense, c'est un choix quand même qui a montré des limites indéniables actuellement.
Dernière question, quelles sont les conditions pour la réussite du prochain gouvernement? Si vous deviez en citer trois conditions.
Moi, la première des conditions, la condition générale, qu'il faut un consensus général et qu'il faut que le gouvernement soit soutenu sur le plan politique, mais aussi sur le plan social à travers donc, l'appui des organisations nationales. Ça, c'est un, je pense, un constat général. C'est une première condition qui est importante. Donc, la deuxième condition, qu'il faudrait que la machine économique se mette en marche. Il faudrait que cette histoire des mines de phosphate, de la CPG, etc., il faudrait que ça repart et que quand même... Actuellement, on n'est même pas à 30% de ce qu'on était en 2010 en termes de production. Donc vraiment, le manque à gagner, il est énorme. Donc il faudrait, avec le JTT et avec les parties prenantes sur place, trouver une solution rapide pour relancer donc, l'activité des phosphates parce que ça va générer donc, des devises et des ressources en devises importantes pour le pays. Et troisième, je pense, au niveau, il faudrait un peu voir au niveau de la dévaluation du dinar parce que quand même, la situation, elle devient extrêmement grave. Ça va donc même jouer sur la compétitivité des entreprises parce que beaucoup d'entreprises quand même apportent des produits de l'extérieur pour pouvoir donc mettre en œuvre leur industrie. Donc si il y a un renchérissement important des coûts des matières premières importées, donc ça va jouer un rôle quand même au niveau de l'inflation, au niveau de la compétitivité de ces entreprises-là. Donc il faudrait essayer quand même de redresser la barre par rapport à cette histoire de dévaluation du dinar, de mettre en place les réformes nécessaires afin au moins de stopper cette baisse qui est devenue inexorable donc actuellement. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, il faudrait, je pense, mettre en œuvre des encouragements à l'investissement pour que les entreprises...
Donc un code d'investissement. Donc,
oui, je pense que le code d'investissement, il doit se mettre en place rapidement, en même temps qu'une réforme fiscale, je pense, qui est indispensable pour que l'État essaie un peu de diminuer donc, son engagement par rapport à l'extérieur et qu'au niveau donc, national, les dettes puissent diminuer, bien sûr en améliorant donc, le rendement, donc... de l'impôt, parce qu'actuellement, quand même, il y a la réforme de l'impôt, elle est nécessaire. Quand on voit le nombre de forfaitaires en Tunisie, on se pose des questions. D'autant plus que les réformes s'en prêtent. Ça veut dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits par l'ancien gouvernement. Quelles sont les réformes? Il faudrait, je pense, passer maintenant à la vitesse supérieure et engager ces réformes au niveau donc de la réforme fiscale. Cette réforme,
merci,
elle est indispensable en parallèle avec la publication donc nouveau code des investissements.
Merci beaucoup, Amour El-Behi, donc membre du bureau exécutif de l'UTAP. Merci beaucoup pour votre intervention.
Merci, Khalil.
Alors, si Hedi Mecheli, que pensez-vous de ce que vient donc de dire Amour El-Behi? Et moi, je voudrais aussi vous poser une question. Ce qui a été rappelé aussi par Amour El-Behi, réforme fiscale, code d'investissement. Pourquoi met-on autant de temps pour mettre en œuvre des réformes nécessaires et prêtes, déjà prêtes?
Alors, c'est vrai qu'au sujet de la réforme fiscale, parce qu'il n'y a pas que cela, il faut réformer aussi l'État.
Oui.
Hein, aujourd'hui, finalement, débureaucratiser, si j'ose dire, hein, lever ces obstacles, les freins, qui freinent, pour ainsi dire, qui s'opposent à la créativité, à la réactivité, effectivement. Hein,
Mais concrètement, quand on a un projet de code d'investissement, quand on sait exactement ce qu'il faut faire au niveau de la réforme fiscale, pourquoi tant de retard?
Tant de retard parce que, d'abord...
Chaque gouvernement attend le prochain gouvernement
pour
le faire.
Non. Il faut dire qu'effectivement, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, si retard il y a, c'est qu'il a été provoqué, pour ainsi dire, par l'Assemblée de représentants du peuple. Parce que le code d'investissement a été revu, corrigé, revu à plusieurs reprises. Hein, c'est un peu comme effectivement le fameux programme effectivement de partenariat public-privé. Donc là aussi, effectivement, s'il y a des retards... qu'il faut déplorer, et je dirais effectivement, il faut quand même mettre ça sur le camp du gouvernement, mais je dirais au passif, si j'ose dire, de la Chambre des représentants du peuple. Donc il y a un certain nombre de réformes qui va absolument engager, il y a réforme donc de l'État, il y a réforme de la fiscalité, elle est difficile parce qu'elle remet en cause un certain nombre d'intérêts catégoriels. Regardez effectivement le bras de fer qui a opposé le ministre des Finances aux, j'allais dire effectivement, hein, communautés et des avocats et pratiquement des médecins de libre-service. C'est pas aussi évident que ça. Et puis, quand on parle effectivement de la réforme fiscale, quand pas... passer sous silence, je dirais effectivement, de cette économie informelle. dont on dit qu'elle représente entre 40 et 50% du PIB du pays, ben là, effectivement, il y a toute une manne d'un gisement. Ben, écoutez, c'est 50% du PIB, ça fait quand même 50 milliards de dinars. Or, aujourd'hui, la pression fiscale est de 21%. 21% de 50 millions, ça fait quand même une sacrée trotte. Ça fait plus de 10 milliards. C'est à peu près le déficit budgétaire du pays. Alors maintenant, comment réorganiser, comment réintégrer évidemment ce circuit informel, comment le restructurer hein, pour pouvoir effectivement tirer bénéfice, mais toute la question est là. Donc, réforme nécessaire, oui, réforme difficile, et puis, parce qu'il faut quand même en parler. Il y a aujourd'hui, considérez le budget de l'État, pratiquement 45%, 50% du budget va pour la rémunération des fonctionnaires de l'État. Il y en a à peu près 4,5 milliards ou 5 milliards vont pratiquement à la compensation, donc évidemment pour alimenter la caisse générale de compensation. Et puis, autant sinon un peu plus, service de la dette. Alors, ce qui reste pour l'investissement, c'est à peine 4,5 milliards de dinars. C'est peu, très très peu. Donc, évidemment, l'État ne peut pas, à lui tout seul, engager les dépenses d'investissement, notamment en matière de structure, etc., nécessaires pour relancer la machine économique, d'où l'intérêt de ce fameux PPP. Donc, un plan, public.
Partenariat public-privé.
Partenariat public-privé, évidemment, qui traîne. Pramela, pas aussi évident pour relancer. Alors maintenant, bien évidemment, quand vous laissez filer ces déficits, notamment, effectivement, des équilibres extérieurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, ça, les conséquences sont réelles, sont évidentes sur la parité, sur la valeur du dinar. Alors, vouloir défendre un dinar fort ou tout au moins stabiliser le dinar, évidemment, vous avez provoqué une hémorragie, le peu de devises qu'on a dans le cadre des réserves de change, et je ne crois pas que le gouverneur de la Banque centrale soit disposé effectivement à se dessaisir.
Donc finalement, vous pensez qu'il ne faut pas aller au chevet du dinar?
C'est-à-dire,
faut le laisser...
non, mais ça, la valeur, la parité du dinar, comme la convertibilité du dinar ne se décrète pas, cela se constate. Ça n'est pas une variable d'ajustement, on ne peut pas jouer là-dessus. C'est le résultat, effectivement. Donc, si l'on veut que le dinar se stabilise ou qu'il reprenne effectivement du poids de la dette, de la
ce n'est pas via une politique monétaire, mais plutôt
l'économie.
Il faut
se remettre au travail, absolument. Notre ami Omar le disait lui-même, il faut absolument que le secteur de phosphate trouve une solution. Alors jusqu'à présent, effectivement, les tentatives, plus ou moins par l'ensemble des gouvernements, n'ont pas réussi. Donc, je me dis, il fallait inventer ou réinventer effectivement notre démarche, parce que dire aux gens, effectivement, vouloir les exhorter à se remettre au travail, au prétexte que le groupe perd 4 milliards ou 5 milliards de dinars effectivement par jour, ça n'est pas ça qui va les remettre en marche.
Qu'est-ce qui pourrait les remettre en marche et leur donner de l'espoir
Développer effectivement une véritable pédagogie d'enjeu, discuter avec eux, partager bien évidemment avec eux, les intéresser aux résultats effectivement du groupe chimique. Moi je pense que si, puis à partir de 2011-12, s'ils avaient réussi à mettre en place effectivement un fonds de développement régional financé en partie, enfin ne serait-ce qu'à hauteur de 5 à 10% de bénéfices du groupe chimique pour développer effectivement des projets dans la région, impliquer effectivement la région, je pense que cela aurait pu aboutir, comme on le ferait dans d'autres régions, Gasoline, etc., ou effectivement au nord, Jindoub. Mais venir dire aux gens, il va falloir que vous remettiez au travail, alors que jusque-là, ils étaient exclus du partage, effectivement, de cette valeur ajoutée, ça n'est pas cela qui va les remettre au travail. Donc il va falloir effectivement inventer d'autres démarches, il va falloir d'abord négocier avec eux, il va falloir effectivement leur tenir un discours frais, juste, et franc, et en même temps trouver avec eux les solutions effectivement nécessaires, les solutions qui s'imposent.
Alors, dernière question, comme la question que j'ai posée à M. Morlbey, quelles sont les trois conditions pour que ce gouvernement puisse réussir, le prochain gouvernement puisse réussir?
D'abord, qu'on le laisse travailler.
C'est-à-dire qu'on le laisse travailler sans critique, sans le critiquer?
Critiquer une chose, mais effectivement mettre les bâtons dans les roues est une autre. Je pense qu'effectivement, ce gouvernement-là... nous allons devoir former un gouvernement, non pas pour le plaisir de former un gouvernement, parce que cela s'impose à nous. Nécessité fait loi. Je dirais effectivement aujourd'hui, dans ces dernières tentatives, pour ainsi dire, pour sauver ce pays-là, il faudrait que tout le monde prenne conscience que la situation est grave et que si rien n'est fait, évidemment, ça risque d'exploser de nouveau et alors tout le monde y passera. Et d'une, il faudrait que ce gouvernement ait suffisamment de détermination et de volonté politique pour aller au charbon et pour effectivement engager les réformes nécessaires. Douloureuse, certes, difficile, incontestablement, mais il faudrait qu'il ait le courage de le dire, de l'expliquer.
Il faut qu'il soit solidaire également, ce gouvernement.
Il y a
un manque
fois,
de solidarité qu'on a constaté au niveau du gouvernement.
Il faut mettre de la cohérence, de la sérénité et de la solidarité. Il faut qu'il soit solidaire. Bon, bien évidemment, vous le disiez vous-même, bon, gouvernement solidaire, mais autour d'un projet. Et il faudrait que ce projet-là, effectivement, soit lisible, que ce projet-là, il faut expliquer ce projet-là. Ben c'est vrai, parce que si vous voulez impliquer, je dirais, l'étudiant, si vous voulez qu'ils prennent eux aussi conscience de la gravité de la situation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Enfin, on développe un discours relativement lénifiant, comme si tout allait bien ou presque, ou tout pourrait aller bien. Non, mais le fait, je pense qu'il va falloir dire un moment, ben stop, arrêtons. Et je pense que c'est un peu l'objet. Je pense que c'est un peu l'objet, effectivement, de l'initiative du président de la République, créer une sorte d'électrochoc, créer un choc de compétitivité, un choc de croissance, un choc de confiance. Mais le fait est qu'il faut que les gens prennent peur, que demain, tout pourrait arriver. Et alors, effectivement, il y va. Et ça, nous risquons de tout perdre. Notre économie, notre modèle social. Ce qui n'est pas peu. Alors maintenant, je pense qu'il va falloir se mettre au travail. Mais se mettre au travail, non pas parce que pour plaisir travailler, mais simplement, il faudrait que les gens y adhèrent. Et pour qu'ils y adhèrent, il va falloir effectivement expliquer, ce qui n'est pas effectivement évident.
Merci beaucoup, donc, Hedi Mechri, on le rappelle, donc, professeur donc, et directeur de l'Économiste maghrébin. Merci beaucoup toutes ces informations. Je vous retrouve lundi dans le cadre de La Politique Autrement, puis on refait le débat samedi de 11h à 12h.